Radio Kapi. Oh, Kapi. Bili Ivan Lutumba pour le journal.
Nous ouvrons notre journal de ce soir avec quelques mots sur le congrès du parti de Jean-Pierre Bemba, le MLC, qui se clôture aujourd'hui. Paul Matendo nous en parle tout de suite. Nous parlerons également d'un autre congrès, celui des femmes vivant avec handicap de la RDC qui s'engagent à se mobiliser pour leur auto-prise en charge ainsi que leur participation dans la vie socio-économique et politique du pays à tous les niveaux. Notre invité de ce soir est Maître Oscar Mukengeshai, coordonnateur national de l'ONG Dynamique pour la promotion et la défense des droits de l'homme basé à Kananga. Il s'entretient avec André Kambala Mujanaï autour de son appel au regroupement politique à se doter de personnalités juridiques. Radio Kapi, toujours plus près de vous. Bienvenue, bonsoir à tous. Clôture ce vendredi soir du 3e congrès extraordinaire du mouvement de libération du Congo MLC à Kinshasa. Des résolutions majeures ont été votées au cours de ces assises, parmi lesquelles la reconduction de Jean-Pierre Bemba à la tête du parti et son investiture comme candidat à la présidentielle de décembre 2018. Rejoignons sur place au centre Nganda, Paul Matendo, pour nous en parler.
Vous l'avez bien dit, Billy Lutumba, parmi les résolutions majeures de ces assises, Jean-Pierre Bemba Gombo serait reconduit à la présidence du MLC. Il sera également investi candidat à la présidentielle de décembre 2018, selon des sources proches du comité organisateur de ce congrès. Autre chose à retenir, le mouvement de libération du Congo a levé l'option de rejeter la machine à voter de la Commission électorale nationale indépendante CENI. La même source ajoute que Jean-Pierre Bemba Gombo devrait prononcer son discours de clôture par vidéoconférence à partir de Bruxelles en Belgique où il séjourne, ce qui ne sera pas possible pour des raisons techniques, nous renseigne-t-on. Du centre Nganda, dans la commune de Kitambo, Paul Matendo, Radio Kapi.
Merci bien Paul de suivre pour nous cette activité. Autre clôture, c'est hier jeudi dans la soirée, après une seconde prolongation par la CENI du dépôt des candidatures à la députation provinciale du 23 décembre. À la nouvelle province de l'Équateur, le bilan provisoire des 8 BRTC et des 160 listes déposées, dont 47 par des partis et 113 par des regroupements politiques. Les enjeux restent de taille pour ces élections où plus de 500 candidats vont se battre pour 19 sièges seulement au lieu de 24 lors de la législature finissante. Éclairage avec Paul-Richard Malengela.
Clôture des dépôts certes, mais le traitement des dossiers et l'affichage des listes valides vont se poursuivre ce vendredi, ce qu'a indiqué le secrétaire exécutif provincial de la CENI Équateur, Achille Bolekela. Ainsi, le bilan partiel des opérations laisse entrevoir une lutte âpre pour les 19 sièges qui vont composer la prochaine Assemblée provinciale de l'Équateur. Les électeurs de Mbandaka et ceux de sept territoires de la province auront à choisir parmi près de 500 candidats, a-t-il dit. À Mbandaka particulièrement, sur les 30 listes déposées, il y aura au moins 90 candidats pour 3 sièges. Parmi eux, plusieurs novices. On note cependant certaines personnalités déjà connues de la scène politique, notamment le gouverneur en fonction Bobo Boloko ou les honoraires Jean-Claude Bayindé et Tony Bolamba. Il y a aussi le ministre national Michel Bongongo, le président de l'Assemblée provinciale Lopanje Kouloube ou l'ancienne maire de Mbandaka Annie Bomboko. S'ajoutent aussi des professeurs d'université dont Faustin Poutou Bokenga et Likoku. Au regard enfin de la représentation, ACO, CDR, MLC, PPPD, PPRD, UDPS sont parmi les 47 partis qui concourent en solo contre 113 regroupements politiques dont ABCE, AFDC Allié, Le Centre, CCU Allié, G7, Palou Allié, RASOP et RIA. Mbandaka, Paul Chamalengue, la Radio Okapi.
Processus électoral toujours. À Kindu, la CENI Maniema fait état de 196 dossiers reçus au niveau des 8 bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC de la province. Pas de dossier rejeté ni des difficultés majeures jusque-là. Émile Donke Tamboué, secrétaire exécutif provincial de la CENI Maniema, le dit au micro de Mathieu Ilunga.
Nous avons pu enregistrer 196 dossiers dans les différents BRTC qui composent la province du Maniema, ventilés comme suit. La ville de Kindu, 27 dossiers de candidature, Kabambare, 22, Kailo, 19, Kasongo, 24, Kibombo, 27, Lubutu, 21, Pangi, 33, enfin Pugna, 23. Nous clôturons cette opération aujourd'hui sur toute l'étendue de la province du Maniema. il y a eu des petits soucis qui n'entravaient pas le bon déroulement des opérations. Les mandataires se sont amenés avec des dossiers non conformes au modèle prescrit par la CENI et ça nous a pris du temps. Nous avons pu constater des couacs de gauche à droite, mais nous avons pu régulariser au fur et à mesure et immédiatement, les juristes et vérificateurs prennent en charge. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore enregistré des dossiers qui ne répondent pas aux critères définis par la CENI. Demain, nous allons clôturer avec cette opération des retraits, ajouts, substitutions.
Toujours en ce qui concerne le dépôt des candidatures à la députation provinciale, à Bukavu, au Sud Kivu, ce vendredi, l'heure est aux opérations de retrait, ajout ou substitution sur les listes des candidatures. Selon la CENI, il s'agit d'une possibilité offerte aux partis, regroupements politiques, d'ajuster leurs listes déjà déposées au niveau des BRTC, Bureau des réceptions et traitement des candidatures. Le secrétaire exécutif de la CENI, Gondes Mahiché, nous fait ici l'état des lieux au micro de Kadia Zuba.
Très ravi de trouver qu'il y a eu un grand engouement dans toutes les antennes. Nous avons une synthèse des rapports provisoires dans toute la province du Sud Kivu jusqu'à la clôture hier la nuit. Nous étions à 973 dossiers réceptionnés, dont 81 femmes qui ont déposé leurs dossiers et 892 hommes. Donc pour la ville de Bukavu, par exemple, où nous avons 7 sièges, eh bien, nous avons reçu 120 candidatures, dont 16 femmes et 104 hommes. Le nombre de candidatures est élevé par rapport au nombre de sièges réservés. Donc, la lutte sera rude. Il faudrait que les candidats se préparent en conséquence parce que, par la suite, n'est-ce pas, ils n'auront que un mois de campagne électorale.
Les femmes vivant avec handicap de la RDC s'engagent à se mobiliser pour leur auto-prise en charge ainsi que leur participation dans la vie socio-économique et politique du pays à tous les niveaux. C'est l'une des résolutions prises lors de leur 6e congrès national sur leurs droits, rencontre clôturée hier à Kinshasa. Ces assises de 2 jours étaient organisées par la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap du Congo, FENAFACO, avec l'appui de plusieurs partenaires dont le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Les participantes étaient venues de toutes les provinces du pays. L'une d'elles explique l'importance de cette résolution au micro d'Honoré Missenga Kalala.
L'objectif global de ce 6e congrès national des femmes avec handicap de la RDC, c'est de promouvoir la participation de femmes vivant avec handicap à la vie publique et politique. Nous, les femmes vivant avec handicap, nous avons déjà pris conscience. Nous n'allons pas nous lasser pour le respect effectif de nos droits dans ce pays. Donc, nous demandons à toutes les femmes vivant avec handicap de prendre leur destin en main, de s'élever pour continuer avec nous cette lutte pour l'intérêt de la population congolaise. Si les personnes vivant avec handicap en général, les femmes vivant avec handicap en particulier, sont exclues de toutes les questions d'intérêt national de la RDC, ça constitue un facteur de sous-développement parce que plus les personnes avec handicap, les femmes vivant avec handicap sont exclues, plus elles constituent une charge pour la population. Mais quand les personnes avec handicap, les femmes avec handicap en particulier, sont intégrées dans la vie sociale, c'est pour le développement de la RDC.
La Banque mondiale annonce le financement et l'exécution de plusieurs projets intégrateurs dans la région des Grands Lacs. C'est le directeur adjoint de cette institution financière internationale pour l'Afrique en mission de travail à Goma qui l'a dit hier jeudi devant la presse. C'était à l'occasion d'une visite guidée au poste frontalier de la petite barrière entre la RDC et le Rwanda où sont exécutés les travaux de construction des infrastructures douanières dans le cadre du projet de facilitation de commerce entre le Rwanda et la RDC. Les propos de M. Hafez Ghanem ont été recueillis par Gabriel Ouamenia.
C'est notre premier projet ici dans cette région. C'est notre projet pilote. Mais, vous savez, nous travaillons avec les États africains. Un des objectifs des États africains, c'est de renforcer l'intégration régionale. Et donc, nous avons plusieurs projets. Et nous allons continuer dans ce sens. Les projets qui aident à intégrer les économies africaines. Parce que, quand même, quand on a fait le commerce ensemble, nos marchés deviennent plus grands et nos produits deviennent plus importants et ça crée de la richesse pour tout le monde, pour les deux pays concernés.
Rappelons que la première phase du projet de facilitation de commerce dans la région des Grands Lacs, PFCGL, est financée à la hauteur de plus de 30 millions de dollars américains. À Nitouri, le gouvernement provincial a remis hier jeudi le bâtiment qui abrite le tribunal de paix et le parquet de Mambasa aux autorités judiciaires locales. Ce palais de la justice qui a été incendié en 2016 est réhabilité par le PNUD dans le cadre de programme Starek. Son chef de bureau à Nitouri rapporte que cette action vise la restauration de l'autorité de l'État dans cette entité, c'est comme le dit Isaac Remoyope.
C'est depuis presque une année et demie que les bureaux du tribunal de paix de Mambasa et des parquets secondaires ne sont pas opérationnels. Les bâtiments qui abritent ces juridictions ont été incendiés par des inconnus. Cela a affecté le bon fonctionnement du tripé et du parquet de Mambasa. Grâce aux travaux réalisés par les PNUD, ces bâtiments sont remis en état. Pour le président du tribunal de paix de Mambasa, la réhabilitation de cet ouvrage va permettre d'améliorer les rendements des juges qui travaillent dans des conditions précaires. Jean-Pierre Massoudi.
De recevoir un bâtiment déjà réhabilité parce que les conditions de travail vont nécessairement influencer positivement le rendement dans l'exercice de nos fonctions.
De son côté, la société civile interpelle les autorités judiciaires d'œuvrer pour l'intérêt de la population locale dans cette entité où il y a de nombreux cas de violences sexuelles et des conflits de terres à San Ingumba.
Nous voulons que la justice soit vraiment au service des peuples. Celui qui est dans un état de faction, il faut le sanctionner conformément à la loi. Tout ce qui nous ronge d'abord, ce sont les problèmes fonciers, les violences sexuelles. Nous voulons que la justice puisse travailler sur ça.
Signalons que ces deux juridictions ont bénéficié environ des mois des motos fournies par la MONUSCO, qui a également réhabilité la prison centrale de Mambasa. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Parlons maintenant de ce coup de gueule de la société civile de Beni qui dénonce la recrudescence de l'insécurité caractérisée par des assassinats des civils à Mambago, un quartier situé dans la périphérie du sud-ouest de la ville de Beni. Selon le président de la société civile, dans l'intervalle de 2 mois, 3 civils ont été tués par balle à côté d'un camp militaire des FARDC. Le révérend pasteur Gilbert Kambale appelle le commandant du secteur opérationnel Grand Nord Sokola 1 de mettre fin à cette situation. Il est au micro de Martial Papimoukeba.
C'est une grande inquiétude par rapport à l'insécurité qui a eu lieu domicile dans le quartier Mambango à l'espace de plus de 2 mois. 3 civils ont été tués, dont certains par balle. Et le dernier cas en date, c'est une dame qui a été tuée en date du 11. Et on a retrouvé le corps justement le 12 le matin. Selon même les témoins qui nous ont rapporté l'événement, la personne a été tuée par balle justement non loin des camps militaires. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'à quelques mètres du camp, qu'il y ait des meurtres, des civils. Et il y a aussi surmilitarisation des militaires dans la zone. Nous estimons que les militaires qui sont cantonnés à Mambango sont censés sécuriser la population et non pas les tuer. Et pour ce faire, nous demandons au commandant des opérations Sokola 1 de prendre toutes les dispositions utiles pour cantonner les militaires et que cesse justement la divagation de ces derniers.
Le capitaine Makazuka, porte-parole des opérations Sokola 1, déclare que la surmilitarisation de la région de Beni est pour des raisons opérationnelles, mais que cela pose quelques problèmes de discipline. Il précise que la justice militaire est toujours à pied d'œuvre pour condamner les coupables. Avant de passer à la page internationale, nouvelle provenant de la même région du pays, 2 commerçants congolais comparaissent depuis plus d'une semaine maintenant devant un tribunal éthiopien. Kassere Kassadiki de la boutique Dieu Exauce de Goma et Balemba Janvier, un commerçant de Bukavu, ont été arrêtés le 2 juillet dernier à Addis Abeba alors qu'ils étaient en transit vers la Chine. Ils sont accusés notamment de convoyer d'importantes sommes d'argent liquide, déclare le collectif des notabilités du Nord Kivu basé à Goma. Cette organisation demande au gouvernement congolais d'intervenir urgentement pour éviter à ses compatriotes une condamnation certaine dans un procès non équitable. Maître Jean-Paul Lumbulumbu, porte-parole de ce collectif, explique au micro de Bernard Benyangi.
Kassereka, l'argent qu'il avait a été confisqué. Il a été traduit devant un magistrat du tribunal de grande instance d'Addis Abeba où une première audience a eu lieu. C'est aussi le cas du deuxième qui est Janvier Machar, qui est la ville de Bukavu. S'il est vrai que de leur côté, il y a eu une imprudence de détenir suffisamment d'argent dans leur valise, il est tout de même du devoir de notre gouvernement d'activer toutes les machines diplomatiques pour freiner la machine judiciaire qui risque d'aboutir à la condamnation de nos compatriotes. Comme vous le savez, nous n'avons plus d'ambassade à Addis Abeba et que donc si le gouvernement n'active pas la machine très rapidement, nous risquons d'aboutir à la condamnation de ces 2 compatriotes. Et nous pensons qu'il est du devoir du gouvernement congolais et de l'AFEC de s'impliquer à cet effet.
Ce collectif projette des actions de pression pour amener le gouvernement congolais à agir vite, ajoute Maître Lumbulumbu.
Actualité, Afrique Monde.
Nous partons du Cameroun avec le président camerounais Paul Biya, 85 ans dont 35 au pouvoir, qui a annoncé ce vendredi sur Twitter sa candidature à un 7e mandat consécutif à la tête du pays lors de l'élection prévue le 7 octobre. Le président camerounais a affirmé que sa candidature était une réponse à des appels incessants de ses compatriotes du Cameroun et de la diaspora. Depuis plusieurs mois, ses soutiens le présentaient comme le candidat naturel de la majorité. L'élection présidentielle se déroulera dans un contexte sécuritaire tendu avec les incursions du groupe djihadiste nigérien Boko Haram et le conflit entre les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Le président érythréen Isaias Afwerki se rendra samedi en Éthiopie dans le cadre du rapprochement historique entre les deux ex-frères ennemis de la Corne de l'Afrique, a annoncé ainsi ce vendredi le gouvernement érythréen. Cette visite vise à cimenter et renforcer la démarche de paix et de coopération entreprise par les deux leaders. Enfin, le Conseil de sécurité des Nations Unies a imposé aujourd'hui un embargo sur les armes au Soudan du Sud et des sanctions contre deux responsables militaires alors que le pays est en guerre civile depuis près de 5 ans. La résolution présentée par les États-Unis a été adoptée par 9 pays membres de la plus haute instance de l'ONU. La Russie, la Chine et 4 autres nations se sont abstenues. Cet embargo vient sans doute à point nommé vu les dégâts causés par la guerre civile qui s'est déclenchée en 2013, soit 2 ans après l'indépendance obtenue en 2011 vis-à-vis de Khartoum grâce en grande partie au soutien des États-Unis.